France Culture.
Moi, personnellement, je fais passer la vie politique avant le bac.
Bonjour, le Book Club. Bonjour, Sœur Chalandron.
À 18 ans, on a le droit d'aller en prison. On a le droit, mais j'y suis allé personnellement, d'ailleurs, on a le droit d'aller pour des raisons politiques. On a le droit d'aller à l'armée. On a le droit de se faire arracher une main. Mais on n'a pas le droit de faire la politique.
J'ai lu The Gift de Ken, un livre qui m'a beaucoup touchée.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
La police décrite comme une armée de pères qui bat ses enfants, on est en 1971, place de Clichy à Paris, et la violence subie dans le cadre familial trouve soudain un avatar effrayant dans l'espace public. Le dernier livre, roman de Sœur Chalandron, fait la route entre ces deux espaces, intime et politique, la maison, la rue. Le texte suit les fugues d'un jeune homme que l'engagement maoïste attire puis repousse, puis pousse au dessin et à l'écriture. Amitié, révolution, sensorialité de la jeunesse, époque violente, expérience de classe, désillusion et promesse d'une transformation par les mots, Sorge Chalandron fait paraître le livre de Kels aux éditions Grasset en cette rentrée littéraire et il est l'invité de votre book club. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouons à chercher trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales et il y en a dans ce roman. Ça y est, on est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le book club. Bonjour Sœur Chalandron.
Bonjour.
Le livre de Kels a paru aux éditions Grasset, il sera au cœur de notre conversation dans un instant. Ici, tout commence au book club par ce qu'on appelle le grand questionnaire lecture. Il s'agit de se dire bonjour et de faire connaissance en évoquant votre parcours et votre lien au livre. Ce roman, dont on va parler dans un instant, met en scène un narrateur double fictionnel qui lit beaucoup de journaux et qui va même avoir beaucoup de, on va dire, d'étapes et d'épiphanies plus ou moins heureuses dans sa vie en rapport avec des journaux. Mais il y a assez peu de livres. Il y a le petit livre rouge de Mao, on y viendra aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre relation dans l'enfance ou dans l'adolescence avec les livres, Sœur Chalandron ?
Parce que ce qui est terrible, c'est que je n'avais pas de relation avec les livres, puisque les livres étaient interdits chez moi. C'est-à-dire que mon père, qui serait aujourd'hui, s'il était encore en vie, je crois que ça serait le chef des complotistes au monde, serait le plus grand complotiste du monde. Mon père trouvait que tout ce qui venait de l'extérieur était mauvais. Lui seul avait la vérité, et donc que ça soit les journaux, que ça soit les livres, tous les livres, sauf les livres de classe, parce que ça, il était obligé quand même, mais tout ce qui venait de l'extérieur ne devait pas atteindre son fils. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire d'abord que nous n'avions que deux livres à la maison, deux, vraiment, littéralement, un et deux, et qui étaient dans un petit meuble en verre fermé sous la télévision. Il y avait une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur la Waffen-SS. Donc pour commencer, pour démarrer dans la rue, c'est extrêmement compliqué. Dans la vie, pardon. Dans la rue, ça y est, je sais déjà que la rue m'attend. Mais en tout cas, pour commencer dans la vie, c'est extrêmement compliqué.
Et pour autant, vous l'ouvrez, ce meuble en verre ? Vous allez voir.
Alors, mon père m'a obligé à lire la Waffen-SS, Hitler non, mais la Waffen-SS oui, pour me dire qu'il y avait des gens courageux qui s'étaient battus pour la France et ces gens-là avaient été oubliés après la guerre. Et il m'a juré qu'il en était. D'ailleurs, il n'en était pas, mais en tout cas, c'est l'un de ses mensonges récurrents qu'il avait fait pendant la guerre, même s'il avait été un peu dans l'armée allemande, il n'avait jamais été dans la Waffen-SS. Et donc moi, les livres sont des objets qui sont chez mes amis. Mmh. Qui sont chez mes amis parce que eux, je vois des bibliothèques pleines. J'aurais rêvé, moi, d'avoir des tout bêtes comme le Club des Cinq, comme Bob Moran, comme la petite bibliothèque verte. Mais même ça m'était interdit. Donc moi, les livres, c'est quelque chose qui étonne complètement mes filles, qui sont plutôt TikTok en ce moment, mais mes livres, il fallait que j'aille les chercher. Donc le livre n'étant pas venu à moi, il fallait que j'aille à lui. Et donc j'étais à Lyon à l'époque, et il y avait une bibliothèque, ça s'appelait la Bibliothèque Saint-Jean, qui était la grande bibliothèque de Lyon, et je errais dans Saint-Jean, je errais dans la bibliothèque, et je cherchais des livres qui me ressemblaient, ou en tout cas, dont je pensais que peut-être ces livres m'ouvriraient. Parce que
Pourquoi vous cherchiez des livres qui vous ressemblaient ? Parce que ce n'est pas une évidence. Il y a des enfants ou des adolescents qui pourraient chercher à s'évader, ils pourraient chercher l'aventure, la distraction. Vous cherchiez quelque chose qui vous ressemble ?
Oui, qui me ressemble, c'est-à-dire dont le titre résonne en moi. Mm. Et c'est pour ça que, d'abord, les premiers titres, parce que ça résonnait, c'était évidemment Vipère au poing, Poil de carotte. C'est-à-dire que j'allais tout de suite vers les enfants battus, jusqu'au jour où une bibliothécaire m'a fait connaître l'enfant de Jules Vallès. Et c'était important pour moi parce que ces enfants battus de la littérature, je me suis d'abord aperçu que je n'étais pas tout seul. Le petit Sorge enfermé à Lyon par un bourreau ou un minotaure dans une petite cage comme ça, il n'était pas tout seul. Il y avait quelque part, il y avait d'autres enfants battus de la littérature. Mais je me suis intéressé à ça d'abord. Mmh. Après, les hauts murs. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un livre dont on me disait ou dont la bibliothécaire me disait que ça pourrait m'intéresser parce qu'elle avait compris avoir mon short, avoir mes petits gilets, avoir mes petits bras, que j'étais un enfant battu, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui touchait à mon enfance, à l'enfant maltraité, et chaque fois que je pouvais faire corps, cohorte avec d'autres enfants, ce livre m'intéressait. Et il a fallu vraiment du temps pour que j'aille voir ailleurs. Je n'aurais jamais pu imaginer, à part les livres obligatoires à l'école, par exemple...
Mais que vous lisiez avec appétit ?
Alors que non. Que je lisais par obligation pour essayer de ne pas avoir une trop mauvaise note. Et c'est bien après, quand je me suis enfui de chez moi, que j'ai découvert le livre. C'est bien après que j'ai osé ouvrir un livre sans avoir peur de recevoir une baffe parce que j'avais rapporté cette saloperie. C'est ce que disait mon père. Je ne veux pas que tu rapportes des saloperies comme ça à la maison. Et ça, c'était un livre que j'ai caché chez moi. C'était La nausée de Jean-Paul Sartre. Mon père détestait tellement Sartre.
À quel âge ?
13 ans, 13, 14 ans. Et en fait, je l'avais caché entre mon sommier et mon matelas. Et ce livre-là, je suis parti avec. Lorsque je me suis enfui, je n'ai pas oublié d'emporter La nausée au livre de poche de Jean-Paul Sartre. Parce que Sartre était tout ce que mon père détestait. C'est-à-dire qu'il détestait les intellectuels. Donc, je suis désolé, je suis sur une antenne publique, je vais dire un gros mot. Il disait, je ne veux jamais que tu sois un PD d'intellectuel, je veux que tu sois un culturiste. Et dans ma chambre, il avait placardé des affiches de culturistes, donc de types qui passaient leur temps à faire du bodybuilding, gymnastique, etc. Et pour lui, son pire ennemi, c'était les intellectuels.
Oui, enfin, il y avait aussi une dimension très homophobe à ce que vous dites là.
Bien sûr.
Je
ne le sentais pas encore.
Ah oui.
Bien sûr, mais je ne sais pas. Je connais l'antisémitisme et je connais le racisme parce que je le vois physiquement. Mmh. Mais l'homophobie,
elle est dans le discours, mais vous ne l'avez pas encore.
Non, je sais pas encore ce que c'est. Je ne comprends pas encore de quoi il parle. Lui, ce qu'il veut, donc contrairement à ces intellectuels qui sont rachitiques, c'était son mot, il voulait que j'ai un coup de taureau. Bon, c'est raté. Mais c'était ça son truc. C'était que son fils soit un mélange, surtout pas intellectuel, parce que l'intellectuel, c'est la lead de la société. Donc moi, tout ce qui allait plutôt de ce côté-là m'intéressait, me touchait,
en réaction.
Me fascinait. J'espère pas que en réaction. En réaction, bien sûr, parce qu'il y avait ça qui était épouvantable, mais j'espère pas que en réaction. Et quand je dis raciste, c'est un mot qui est important, parce qu'il y a des mots, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de pensée, il y a des invectives, il y a des mots qui sont jetés comme ça, et c'est d'une violence absolue. Mais quand je dis raciste, ça veut dire que mon père rentre de Lyon un jour, nous étions en pleine guerre d'Algérie à ce moment-là, il rentre de Lyon et il a une gabardine blanche pleine de sang. Et quand ma mère lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, tu sais, j'ai croisé un arabe dans la rue, il disait un bico, mais je préfère pas, en tout cas, voilà, un arabe dans la rue qui m'a regardé de travers et je l'ai démonté. Et ma mère, moi, j'assiste à ça, mon père qui arrive avec le sang d'un autre sur sa gabardine, et ma mère, tout ce qu'elle lui répond, c'est, oh, mais coûte du sang sur la gabardine, comment je vais avoir ça, moi ? Je viens de cette famille-là. Donc c'est une famille sans livres, c'est une famille sans culture, c'est une famille sans pensée, c'est une famille sans ouverture, évidemment. Et je sens que lorsque je vais me sauver de cette famille à 16 ans, j'aurai tout à apprendre. Je ne connais rien, c'est-à-dire je connais quelques classiques, je ne connais pas la douceur, je ne connais pas la tendresse. Alors c'est pire que les livres, je pense. J'ai pas eu, c'est ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est bizarre. Maintenant j'ai 3 filles, donc j'ai fait extrêmement attention à ne pas reproduire évidemment, mais j'ai jamais eu une maman qui m'a aidé à chasser le monstre qui était sous mon lit d'enfant.
On va y venir parce que évidemment cette dimension-là de la tendresse, de l'odeur, de
rien,
manquer de la mère.
Je n'ai rien.
Existe.
Donc le livre est en plus en fait. Hein, le manque de livre vient en plus du manque de tendresse, le manque d'amour, etc.
Mais alors le manque de tendresse, le manque d'amour, vous le dites, Sœur Chalandon, on peut passer une vie à courir après. Est-ce que le manque de livre, ça se récupère plus facilement ?
Alors oui et non, parce que tout d'un coup, je me rends compte que j'ai perdu un temps fou. Et je me rends compte que je ne sais rien. Et c'est terrible parce que je me retrouve après, on en parlera peut-être, avec de jeunes intellectuels qui eux savent et qui me balancent des... Alors Sartre, moi je suis très content, j'ai la nausée, mais c'est pas suffisant, mais qui me balancent les mots, qui me balancent huis clos, qui me balancent le théâtre de Sartre et qui me balancent Camus et qui me balancent mais tout même Hugo. Hugo, bien sûr que Demain dès l'aube, tout ça, je le porte en moi, mais je ne sais pas. Et je me rends compte qu'en fait...
Bon, vous avez 18 ans, Serge Chalandon, à ce moment-là.
J'ai 16 ans et demi.
Oui, donc en fait, il y a plein de gens qui, à 16 ans et demi, selon vos termes, n'ont rien à ce moment-là.
Mais si, quand même, il y a une bibliothèque qui traîne dans une maison de famille, il y a la bibliothèque des parents. Non seulement il y a la bibliothèque des parents, mais les enfants savent que sur les plus hautes étagères, il y a la bibliothèque interdite que l'on va chercher, etc. Là, il n'y a pas ça. Mmh. Donc non, je n'ai rien, c'est-à-dire que je sens que je suis... Je sors de nulle part pour aller vers la lumière. Mais cette lumière-là, elle n'est pas évidente. Mmh. Comment est-ce qu'on ouvre un livre ? Vers quel livre on va ? Et surtout, je suis pris d'une énorme chose qui est la culpabilité. Je me sens extrêmement coupable de ne pas savoir. Et surtout, ben, je me sens idiot. Je me sens complètement con.
C'est-à-dire Mais est-ce que c'est un moteur ? Est-ce que c'est un moteur qui
vous
pousse ?
Oui, apprendre, savoir, apprendre. Quand je me retrouve avec des copains étudiants, vous savez, c'est très très con, mais quand je me suis sauvé de chez moi, je voulais être hippie, en gros. Bon, ça a raté. Mais la première chose que j'ai faite, je me suis acheté un bandeau, je me suis mis autour du front, comme Jimi Hendrix, comme les hippies
de l'époque.
L'époque. Et quand je me suis retrouvé avec des jeunes intellectuels, je me suis acheté des lunettes, mais avec des verres qui ne servaient à rien, juste pour me donner l'apparence. J'avais honte, en fait. J'avais honte. C'est-à-dire que quand je me retrouve avec deux copains qui sont en face de moi et qui débattent sur Guattari, Deleuze, l'antipsychiatrie, je suis là, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Moi, ce que je sais, c'est que ce que mon père m'a appris, c'est qu'il y avait les fous et il y avait lui. C'est tout ce que je sais de la folie. À part mon père, tout le monde est fou.
Mais alors, ça vous fait lire sur cette piste-là, ça vous fait découvrir Deleuze, ça vous fait découvrir Félix Guattari,
et
ça
les
vous
rencontrer, fait découvrir Foucault. Mais en plus, les rencontrer physiquement. C'est-à-dire que tous ces gens que mon père déteste, brusquement, je leur serre la main, je les écoute, je les entends.
Et vous les lisez ?
Et alors, oui, ça a été l'anti-Oedipe, j'ai essayé comme tout le monde, je m'y suis remis après. Mais oui, bien sûr. En fait, c'est bizarre, je suis entré dans la littérature par une voie qui paraît toute simple, toute bête, et qui pour moi était fondamentale et qui reste pour moi fondamentale, c'est Georges Simenon. Je suis rentré dans Georges Simenon d'abord par la littérature, ce qu'on appelait littérature dure, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas Maigret, l'inspecteur, le commissaire, etc., mais par une littérature dure, et ce que j'aimais chez Simenon, tout de suite je l'ai aimé, comme j'étais un enfant bègue. J'avais un gros problème avec les mots, j'avais un problème avec... J'ai fait une sorte de pacte avec les mots, je vous respecte et vous me permettez de vous dire. Voilà, c'est-à-dire que lorsque
Ça, c'est avant ou après la découverte de Simenon ?
Avant. Lorsque j'étais enfant, il fallait que les mots, je les respecte. Toujours, je respecte les mots. Et tout d'un coup, je tombe sur Georges Simenon, qui a une économie de mots formidable. Il n'y a pas de mots en trop chez Simenon. À part, si, dans toute son œuvre, il y a trois fois le rideau de guipure. Donc, la guipure, qui est une toile. Et trois fois, j'ai trouvé le rideau de guipure dans trois romans de Simenon, mais pas le reste. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque roman et chaque livre de Simenon est écrit par un autre être que lui.
Donc ça, c'est votre entrée en littérature.
Ouais. Simenon, et puis très très vite, alors ce que lisent les jeunes, mais moi je l'ai lu un peu plus vieux, les Vian, Camus évidemment, mais tout me renvoyait à ce que je ne savais pas. C'est-à-dire que, en cachette, en secret, je faisais des fiches en fait. Je faisais des petites fiches que je relisais même avant des conversations pour savoir quoi dire. J'apprenais des phrases par cœur, des mots par cœur pour savoir quoi répondre. Je sentais, j'en voulais énormément à ce bourreau-là parce qu'il y avait ça, mais il y avait évidemment les coups, la violence. Lorsqu'il me battait, il hurlait en allemand. C'est quand même hallucinant dans les années 60 d'être un enfant français et qui est battu en allemand par son père qui avait été dans l'armée allemande. Tout ça fait une sorte ce sont des ténèbres. Et sortant des ténèbres, brusquement, je croise le plus beau du monde. Je croise la littérature, mais je croise le cinéma, je croise la culture, je croise le théâtre. J'ai pleuré une fois devant une toile de maître au Louvre, mais mon père m'aurait vu pleurer devant une toile de maître au Louvre, mais il hurlait. Tout d'un coup, je laisse entrer la vie en moi, vie qui m'avait été totalement interdite à tout jamais. Et c'est comme ça que je découvre ça. Mais pour ça, il a fallu, non pas que je m'en aille, que je m'enfuis.
Et c'est de cette fuite, ou c'est par cette fuite que commence votre premier roman, pas du tout, c'est marrant de dire premier roman.
C'est très joli, parce que ça aurait pu être le premier.
Ça aurait pu être le premier,
alors,
en effet.
Alors vraiment, si j'avais osé, mais je n'ai pas osé parler de la violence.
Parce que c'est vraiment un roman des origines.
Mais bien sûr, mais vous avez raison.
C'est drôle que je dise le premier. C'est pas le premier, c'est le nouveau. Voilà. On va parler de ce livre, en tout cas, juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Litige. Le disque s'appelle « Fuite en avant ». Donc c'est un titre qui convient parfaitement à l'énergie du début de votre texte, Sor Chalandon. La chanson s'appelle, elle, « Nowhere to hide »,« Nulle part où se cacher ». Et la chanteuse s'y gèle les fesses, je cite, « dans une grotte glaciale ». Elle attend de pouvoir prendre son stylo pour crier et écrire, c'est presque pareil, et se débarrasser des doutes.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui, dans votre Book Club, un jeune homme, que dis-je, un enfant, glisse des bouts de papier dans les failles du mur avec des mots écrits dessus. C'est vous ou c'est votre double de fiction, Sor Chalandon, ou c'est les deux, pour ce nouveau roman qui paraît aux éditions Grasset en cette rentrée littéraire. Un roman pour une trajectoire, celle qui va de l'enfance abîmée à l'écriture salvatrice, en passant par les mouvements politiques de la gauche du milieu des années 70. Des mots inscrits sur les petits bouts de papier, aux mots imprimés sur les pages d'un livre, on assiste peut-être à la recherche d'un socle. La rue, la fac, les manifs, les bidonvilles, les doutes, les coups, les solidarités, les erreurs, Munich, un petit livre rouge, un journal, des journaux, tout apparaît dans la narration comme on revisite sa mémoire. Ça s'appelle Le livre de Kells et ça a paru aux éditions Grasset. Sor Chalandon, ce livre, il se termine par une liste des morts. Vous avez dit tout à l'heure, je quitte les ténèbres pour découvrir la lumière, et d'une certaine manière, ce roman raconte une façon d'accéder aux lumières ou à la lumière, mais à la fin, la lumière se tamit pour laisser place à une liste. Denis, le copain chilien, a choisi la lutte armée. Un matin, en bord de Seine, il s'est tiré une balle dans la bouche. Petite étoile. Yves s'est pendu. Petite étoile. Daniel s'est pendu. Petite étoile. Marc, ouvrier chez Renault, a été abattu par une patronne de café dans le Val-de-Marne. Petite étoile. Éric était infiltré chez les Mao. Élève officier à l'école nationale de police, il a disparu avec nos munitions. Est-ce que cette liste des morts-là, elle vous oblige d'une certaine manière? Est-ce que vous, vivant, Sor Chalandon, qui terminez votre texte par un cœur étoilé, donc un cœur qui bat, elle vous oblige à écrire, au sens pas obligatoire de l'école, mais au sens peut-être d'une forme de dignité, de la mémoire?
D'abord, je pense que j'ai un compte à leur rendre. Souvent, on me dit, mais pourquoi ce roman? C'est tout bête. Denis s'appelait Jean-Denis, en fait. Marc s'appelait Jean-Marc. Voilà, donc le côté romanesque est assez... Mais ce qui est important, c'est que lorsque ce mouvement s'est dissous, on est tous retournés, comme disait Ferré, c'est magnifique, et tous sont retournés chez leur automobile. après 68. Et là, on est tous retournés à nos affaires. Les étudiants sont retournés dans les facultés, les professeurs sont retournés au professorat. Mais les autres, ceux qui n'avaient rien lorsqu'ils étaient dans le mouvement, les ouvriers, les gens comme moi, les gens de la rue qui a eu la chance de rencontrer Libération, mais autrement, on perdait tout. C'est-à-dire qu'on perdait nos espoirs, on perdait nos camarades, on perdait nos amis. Moi, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais les plus grandes fiertés que j'ai eues dans ces moments de militantisme, c'était vraiment lorsqu'on se levait à 4h du matin, qu'on allait aux portes des usines, Renault, Citroën, qui étaient très très dures, et que vous aviez des tracts, on faisait des tracts en bambara, en turc, en arabe, pour demander aux ouvriers de ne rien lâcher, de se battre, d'avoir confiance, qu'on aurait des jours meilleurs. Lorsqu'on se dissout, et qu'on voit ces ouvriers, ces gestes qui me hantent encore, ces ouvriers qui prenaient ces tracts, qui les regardaient, qui nous souriaient, et qui cachaient ça sous leur blouson. Qui aujourd'hui pour distribuer ces tracts aux ouvriers? Et lorsqu'on s'est dissous comme ça, lorsqu'on a tout arrêté, il n'y avait plus personne à 4 heures à la porte des usines. Il n'y avait plus personne pour le combat, pour la bataille. Il n'y avait plus personne pour l'honneur et pour la dignité. Non seulement il n'y avait plus personne, mais des copains qui étaient avec moi, avec qui on a vécu toutes ces années où on croyait aux choses, où on espérait les choses, et ben ces copains se sont retrouvés sans leur usine, sans leur grille, sans leur tract, sans leurs copains, sans toi, sans plus rien. Et ils sont morts.
Et sans vraiment de jour meilleur, d'une certaine manière.
Et sans jour meilleur. Et quand il y a quelques semaines, ou quelques mois, on voit dans Paris un millier de jeunes garçons d'extrême droite qui pourraient avoir la bonne vieille croix celtique sur leur drapeau. Mais sur leur drapeau, ils ont des runes nazies, de véritables runes nazies. Et ils sont ouverts, la marche est ouverte par deux jeunes hommes avec des tambours, et ils ont peint leurs tambours. Leurs tambours sont peints aux couleurs des jeunesses hitlériennes. Et c'est entouré par la police qui les protège, avec des gens qui crient « mais c'est dégueulasse », qui se font matraquer. Je me disais à ce moment-là qu'on leur a peut-être laissé la rue un peu tôt.
Mais du coup, ça veut dire, Sœur Chalandon, qu'il y a quelque chose de l'époque que nous traversons qui vous a poussé à l'écriture du livre de Kells ?
Alors non, c'est pas quelque chose de l'époque. Je pense que si j'avais osé, j'aurais écrit ce livre avant.
Mais mon lapsus de tout à l'heure, votre premier roman.
Vraiment. Mais j'ai pas osé parler de la rue, j'ai pas osé parler de la méconnaissance que j'avais, j'ai pas osé parler de l'inculture, j'ai pas osé parler de la violence. C'est extrêmement dur pour moi de dire que j'ai été dans un mouvement violent, j'ai été frappé, mais j'ai frappé beaucoup. C'est pas facile de dire que l'on mettait du sucre glace dans les cocktails Molotov pour pas que les plaies cicatrisent. C'est pas facile tout ça. Ce livre est un aveu en même temps. C'est un aveu, c'est pas facile de dire que j'ai été dans la rue, que pendant plusieurs mois, presque un an, j'ai été dans la rue, que j'ai eu froid, que j'ai eu faim. C'est pas facile d'écrire que j'étais obligé de défendre mon sac à coups de couteau contre les voleurs. C'est pas facile de dire que un jour dans un wagon SNCF qui était en gare Saint-Lazare et qui était en bout de quai, je dormais dedans. C'est pas facile de dire que tout d'un coup j'ai été réveillé par deux hommes qui avaient leurs pantalons baissés sur leurs chevilles et que j'étais obligé de me débattre à coups de couteau encore. C'est dur d'écrire tout ça. Et je pense qu'avant d'écrire tout ça, il fallait que j'écrive d'autres choses et que je vive d'autres choses. Et peut-être que je sois père. Et peut-être que j'ose être père et j'ose dire c'est comme ça mes chéris. Je viens de là, c'est comme ça, apprendre ou à laisser, mais en tout cas, je ne pouvais pas avant. Je ne pouvais pas raconter tout ça avant. Et ce qui m'a touché, et ce qui m'a obligé en fait à écrire tout ça maintenant, c'est que dans les rencontres, dans les salons du livre, les gens me disaient d'accord, on sait ce que vous avez fait. Vous avez été enfant battu, en gros, vous l'avez assez dit, c'est bon. Vous avez été journaliste, on le sait aussi avec le livre, Le Quatrième Mur, etc. Mais quand vous êtes parti de chez vous, il s'est passé quoi ? Et là, je me suis dit, c'est le moment, je crois. C'est le moment que mes filles le sachent, c'est le moment de le dire, c'est le moment de l'avouer, et c'est le moment de rendre hommage à des jeunes de mon âge qui ne sont pas allés plus loin et qui sont morts sur mon chemin et que j'ai été obligé d'enjamber pour continuer ma vie.
Ce livre commence par un départ, par une fuite, par quelque chose aussi que vous donne votre mère. Vous quittez Lyon ce jour-là.
Ma mère avait réussi à me retrouver dans la gare avant que je sois grignoté par la foule. « Tiens, prends ça, mon fils, t'en auras besoin. » Entre le pouce et l'index, elle tenait un billet de 100 francs plié en quatre. Pierre Corneille souriait de cette scène d'adieu à bas prix. Lui, gravé sur du papier moné marron-rouge, devant le théâtre du château de Versailles. Moi, figé dans un coin du hall. Lui, aux allures de cardinal caloté. Moi, fabriqué sans amour, une nuit d'août. Surtout, ne dis pas ça à ton père. Ne dis pas que j'ai donné cet argent. Elle surveillait toujours derrière elle. Ses yeux tristes, ses lèvres en simple trait. Tu me promets, mon fils ? Bien sûr, je te promets. Rien. Pas un mot. Jamais l'autre ne saurait que tu m'avais donné un billet de 100 francs pour bien débuter dans la vie. Un corneille pour solde de tout compte. Cet argent, tu avais dû le prélever sur l'entretien du ménage, comme le bonimenteur réussit à faire disparaître sa bille sous le godet. Cacher cette somme avait dû te coûter, et me la remettre tenait de l'épopée. Tu pensais avoir prélevé pour moi un trésor que j'ai replié et rangé dans ma carte d'identité. Nous nous sommes embrassés sans tendresse, frôlés à peine, lèvres détournées de peur qu'elles ne rencontrent la peau de l'autre. Puis tu m'as regardé partir dans le hall, un mouchoir blanc au creux de ta main. Tu pleurais, mon cœur était désert. « Va, quitte le dernier des humains », murmurait Don Diego. Corneille ne pourrait rien pour moi, mais tu ne t'en doutais pas. C'est comme ça que je me suis évadé pour la dernière fois, que j'ai fui les gifles de l'autre, que je t'ai abandonné à lui. Comme ça aussi que j'ai rencontré ma copine, la rue.
Bonjour le Book Club, bonjour Sœur Chalandon, j'ai lu le livre de Ken, un livre qui m'a beaucoup touchée. Ce qui m'a marqué, c'est le début, c'est cette maman qui va donner un billet de 100 francs à son fils, un billet qu'elle a su garder malgré l'autorité du père, qu'elle a su préserver pour son fils. Et du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait que votre maman vous ait tendu la main, et puis plus tard on va voir d'autres protagonistes qui tout au long de votre chemin vont vous tendre la main? Est-ce qu'inconsciemment, vous n'avez pas une dette envers eux? Et est-ce que l'écriture n'est-elle pas un échappatoire ou un moyen pour honorer justement cette dette? Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous Christelle pour cette lecture et pour cette question. On a entendu un premier extrait de votre livre Sœur Chalandon et cette scène très romanesque, on peut dire même très très littéraire, qui emprunte à une tradition du fils qui part et de la mère qui le retient pour lui glisser quelque chose, ici un billet, parfois une lettre de recommandation, parfois un petit baluchon avec quelques denrées. Christelle vous demande, est-ce qu'il y a dans le geste d'écriture du livre de Kels une manière de rembourser ce geste, ou en tout cas de rembourser la dette?
Alors, je pense qu'il y a une manière de rembourser la dette. Je pense que maman, je peux dire maman,
c'est... Bah, vous faites surtout comme vous voulez.
Maman, je crois que je la magnifie dans ce livre de Kels. Parce qu'elle, qui était une petite souris battue, qui était une victime de mon père, j'en fais à un moment donné une résistante proche d'un mouvement noir américain, les Black Panthers. Ouais. C'est-à-dire que, alors bon, je prenais de la drogue, donc ça, on peut comprendre, mais brusquement, j'ai eu envie qu'elle quitte son tablier, qu'elle quitte les coups de l'autre, mon père, et qu'elle devienne quelqu'un, presque une héroïne à mes yeux. Mais écrire ce livre, pour moi, c'est vrai que c'était rendre hommage à ceux qui m'ont tendu la main. D'abord, c'était très difficile pour moi d'accepter une main tendue. Mon père n'avait pas de main, il avait des poings. Et donc, j'ai passé mon enfance sous les poings de mon père. Et c'est vrai qu'une main tendue, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour moi à accepter, à admettre et à prendre. Prendre une main tendue, c'est pas simple du tout. Parce que, moi, j'ai beaucoup été environné de traîtres. J'ai écrit à ce sujet. Mais comme d'autres, hein, je ne suis pas le seul. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'écrire ce livre-là, ça a été rendre hommage aux amis avec lesquels j'ai milité, rendre hommage aux amis qui sont morts, rendre hommage à cette maman qui était vraiment, je crois que c'était la pire victime de l'autre, la pire victime de mon père. Et ce petit geste réel de ce billet de 100 francs tendu dans une gare au moment où je prenais le train sans ticket, évidemment, parce que je n'avais pas d'argent, c'était un geste de résistance. Et si vous permettez, j'ai un deuxième geste dont il faut que je vous parle, qui est pas dans ce livre-là, mais qui est tellement bouleversant. Ma mère ne pouvait pas résister. Elle baissait les yeux, elle baissait la tête. Même lorsque mon père frappait, elle se cachait dans sa chambre. Lorsque mon père mentait, elle n'osait pas me dire que tout ça était faux. Elle n'osait rien dire, elle baissait la tête. Toujours, elle s'enfuyait. Mais un jour, mon père me fait croire qu'il va m'emmener dans une maison de correction. Cette maison dont je parle dans L'Enragé, qui est un autre roman, donc une île, une maison de correction.
Il s'enfuit des enfants.
Voilà, qui est sur une île. Et mon père me fait croire qu'il va m'y emmener en pleine nuit. Nous sommes à Lyon, donc je suis avec mon petit slip kangourou, je suis avec mon petit maillot, je mets un vague pantalon et il demande à ma mère de faire la valise pour que je parte en maison de correction. Et ma mère fait la valise et je me rends compte qu'elle a oublié mon pyjama. Et je lui dis « Maman, tu as oublié mon pyjama ?» Elle me regarde, elle fait extrêmement attention que l'autre ne soit pas là. Elle dit « Tu sais mon fils, tu n'en auras pas besoin, tu vas rentrer ce soir. » C'est un acte de résistance fabuleux. C'est-à-dire que tout d'un coup, je sais que cette valise, elle est fausse, que je n'irai pas en maison de correction. Et cette petite dame grise, qui fait bien attention que le salopard ne soit pas dans les parages, elle me dit « Tu n'en as pas besoin, tu vas rentrer ce soir. » Ça, c'est comme le billet, c'est quelque chose qui est un héritage dans la vie qui me donne confiance dans l'humanité.
Il y a cette figure maternelle, un petit peu plus tard dans le texte, vous dites aussi toutes les choses que vous n'avez pas eues et toutes les odeurs et toute la tendresse à laquelle vous ne pouvez pas vous raccrocher. Et elle se confond à un moment donné du texte, cette figure maternelle, avec la figure d'Angela Davis.
Oui.
En effet, alors peut-être à la faveur d'un trip sous LSD ou d'autres drogues, mais en tout cas, il y a quelque chose dans la figure d'Angela Davis qui remplit ces deux fonctions, que serait rejoindre un idéal politique, un idéal de la lutte, et se rattacher à une figure comme ça, maternelle, d'une lutte pour la vie aussi, sans Chalandro. Est-ce que c'est cette figure-là qu'aura été Angela Davis à ce moment-là?
Alors oui, c'est-à-dire que moi, j'étais très touché par Angela Davis, même enfant, parce que d'abord, je la trouvais très jolie. Donc moi, je suis un petit blanc, et puis je trouve que c'est cette combattante-là, elle est magnifique. Et à l'époque où je prends, puisque c'était du LSD, j'en ai pris peu, mais là, elle était recherchée par toutes les polices américaines pour avoir aidé, soi-disant, les Black Panthers à armer des Black Panthers. Et en fait, après, elle a été totalement innocentée par un jury blanc. Donc voilà, c'était extrêmement clair. Mais en tout cas, elle est en fuite. Et je prends du LSD et je regarde le magazine Life. J'avais le magazine Life avec moi. Et il y a une photo d'elle qui est absolument somptueuse, où elle s'adresse à la foule. Je crois qu'elle est à Detroit ou à Cleveland, mais en tout cas, elle s'adresse à la foule. Et parce que j'ai pris du LSD, parce que je suis drogué, parce que j'ai des hallucinations, dans la foule, je vois maman. Je vois maman et je suis complètement surpris. Qu'est-ce qu'elle fait aux États-Unis? Maman qui quitte Lyon, enfin qui quitte l'appartement pour aller faire les courses, qu'est-ce qu'elle fait aux États-Unis? Et tout d'un coup, je comprends, je délire, mais je comprends qu'en fait, maman, c'est le bras droit d'Angela Davis. Et que maman, c'est une combattante. Et que maman, c'est une résistante. Et dans mon empoisonnement de drogue, je l'imagine avec le béret noir, je l'imagine avec un pistolet passé dans la ceinture, et c'est mon héroïne. Et je termine avec deux policiers qui viennent me prendre. Je suis sur un banc et je hurle « Je t'aime, maman ». Parce que brusquement, elle s'échappe de l'autre, elle s'échappe de sa condition de femme, battue, d'épouse flouée, et elle devient la plus belle des femmes, une révolutionnaire. Et ça, pour moi, j'en ai encore la chair de poule lorsque j'en parle. Dommage qu'elle soit morte, parce que j'aurais aimé qu'elle lise ce passage. Mais je sais, ma petite maman, qu'elle m'aurait dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je la connais pas, cette dame dont tu parles. Faut pas raconter des bêtises dans les romans. » Et j'aurais pleuré, parce que, une fois encore, j'aurais pas réussi à lui dire « Je t'aime » directement.
Il y a quelque chose dans ce livre de Kells qui tient du portrait d'une époque, Sœur Chalandon, du portrait d'une jeunesse, parce que évidemment il y a la jeunesse singulière et individuelle de ce petit gars qui quitte Lyon et qui quitte la violence, mais il y a aussi toute la jeunesse qu'il va rejoindre et qui elle est engagée dans la lutte politique. On va écouter une archive. On est en 1969 devant le fameux lycée Henri IV de Paris. Et c'est un gars qui a décidé que la politique, c'était plus important que le baccalauréat.
Vous avez en moyenne d'âge 17 ans. Vous êtes élève de lycée en classe terminale, mais est-ce que vous savez très précisément où vous allez?
Cette question, à court terme, je pense que le mouvement gauchiste doit rompre avec toutes les erreurs qu'il a pu faire.
Condamnation de la violence.
Tout à fait. Le genre de violence que nous voulons utiliser, c'est uniquement conjoncturel et de la violence de masse. pas une violence minoritaire comme ça a été menée certaines fois.
Est-ce que ceux qui sont le plus engagés apparemment, c'est-à-dire ce qu'on appelle les maoïstes, savent précisément en tant qu'élèves de lycée où ils vont cette année et dans les quelques années qui viennent?
Bon, ça dépend absolument de la situation qu'il va y avoir en France bientôt. Moi, personnellement, le bac, je le condamne en tant que forme de sélection.
Vous allez le passer?
Je vais le passer, oui.
Pourquoi?
Et je vais le passer parce que je suis dans une société bourgeoise et qu'il faudra que je le passe. Mais si vraiment il faut le boycotter, je suis prêt à le boycotter.
Et vos parents continueront à payer vos études l'année prochaine pour le passer tout de même?
Ben alors dans ces cas-là, j'irai travailler dans une usine.
Vraiment?
Ben vraiment, oui, vraiment, sérieusement. Moi, personnellement, je fais passer la vie politique avant le bac.
À 18 ans, on a le droit d'aller en prison, on a le droit, mais j'y suis allé personnellement d'ailleurs, on a le droit d'aller pour des raisons politiques, on a le droit d'aller à l'armée, on a le droit de se faire arracher une main, mais on n'a pas le droit de faire la politique.
1969, un lycéen dont je n'ai pas le nom, une archive ORTF devant son lycée à Paris, le lycée Henri IV. Sœur Chalandon, vous racontez toute cette sociabilisation liée au militantisme, liée au projet politique, à la lutte, aux manifestations, les conversations dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi ces gosses de riches qui militent avec vous et où il y a aussi une expérience de classe qui est fondamentale dans le militantisme. Le livre de Kels, c'est aussi ça? C'est aussi une grande photographie de cette jeunesse-là que la police tabasse.
Alors c'est bizarre parce que lorsque je fais des dédicaces en ce moment, le livre de Kels, je dédicace une jeunesse française. C'est-à-dire que si le titre n'avait pas été pris, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on parle beaucoup des maoïstes. Il y avait des maoïstes que nous on appelait les dogmatiques ou les religieux ou les croyants. C'était le pilivre rouge, etc. Nous c'était absolument pas ça. Nous, même ces gens-là, nous appelaient avec mépris les maos spontanéistes, c'est-à-dire que on faisait la fête aussi, etc. Mais pour nous, c'était extrêmement simple. Il n'y avait pas de Chine dans notre journal, cause du peuple. Il y avait Mao sur la couverture, parce que ça faisait peur, voilà. Il y avait la faucille et le marteau, parce que c'était comme ça. Mais nous, notre problème, c'était la France. Nous, notre problème, c'est que nous étions un mouvement anti-autoritaire. La Chine, on s'en fichait totalement. Enfin, on s'en fichait totalement, oui. Vraiment, on s'en fichait. Moi, j'ai acheté le livre 1 du Capital de Marx. J'ai commencé, je me suis dit, ah merde, c'est de l'économie. Donc, c'était ça. C'est-à-dire que notre problème, c'était être le plus à gauche possible. Premier problème. Deuxième problème, c'est partout il y a oppression, il y a résistance. Partout. Donc les plus matraqués que nous, les plus tristes que nous, les plus pauvres que nous, les plus arabes que nous, les plus juifs que nous, les plus noirs que nous, s'ils étaient opprimés, il fallait qu'on soit là en protection. Toujours. Il y avait un mouvement qui était 72, où que chaque fois qu'un travailleur immigré était embarqué par la police, l'ordre c'était qu'on soit embarqué avec lui parce que il y avait des brutalités excessives dans les commissariats. En 73, après, il y a eu une chasse aux Arabes en France, des centaines de morts. Donc nous, notre problème, c'était pas on parlait pas de Marx, de Lénine, etc. Non, notre problème c'était que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui baissait les yeux, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui baissait la tête, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui était opprimé, humilié, il fallait que tout d'un coup, celui qui le fasse se retourne en disant « Zut, s'il y a un Mao dans le coin, je vais prendre un coup dans la gueule ». Et c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que, quelques exemples brefs, mais si un petit patron d'atelier, un petit type dans un atelier mettait sa main aux fesses d'une ouvrière, les copains Mao de l'usine venaient voir les copains Mao de l'extérieur, on déboulait à 6 ou 7 et on lui expliquait que ça ne se faisait pas. Comment est-ce qu'on lui expliquait? Eh ben, on le déshabillait, on le peignait en bleu et on brûlait sa mobilette. C'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien, c'est pas de la justice, mais c'était de l'urgence. C'était je ne veux pas que ce type-là mette les mains aux fesses. On ne voulait pas que ce type-là mette les mains aux fesses d'une femme.
Pourtant, d'autres ont témoigné que dans les mouvements maoïstes, il n'y avait pas que des gentlemen et que le sexisme a aussi circulé.
Probablement.
Mais c'est encore autre chose et c'est encore
un autre. Probablement, mais il y a eu aussi du sexisme. Probablement à l'extrême gauche.
Il y en a partout, sur Chalandon.
Bien entendu, mais moi.
C'est même pas la peine d'en faire la.
Bien sûr, mais moi, ce que je sais, c'est que nous. Ces Mao-là, la gauche prolétarienne, d'abord, les femmes avaient une place combattante et pas une place... voilà, je veux dire, ce n'était pas des femmes qui sifflaient sur les bords. C'était des femmes qui se battaient avec nous. Et nous, ce qu'on voulait... Et d'ailleurs, y avait pas mal de nos copines qui était et dans les manifs durs avec nous et dans les manifs de femmes. Et c'est ça qui nous rendait le plus hystérique, c'est que les manifs durs avec nous, que la police arrive, nous charge, nous bat, etc. C'est normal. Mais que la police, comme elle l'a fait en 70-71, matraque à terre des femmes parce qu'elle, juste des femmes qui avaient des ballons, etc. On trouvait ça absolument dégueulasse. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est simple, c'est que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se sentait, qui était opprimé, négligé, etc., il fallait qu'il le sente passer. On ne va pas réexpliquer aujourd'hui que l'antisémitisme, c'est mal. On ne va pas réexpliquer que le racisme, c'est pas bien. J'ai pas envie de perdre mon temps à dire, mais attendez, c'est pas bien de tuer les Juifs. Ça, pour moi, c'est terminé. On a tout dit ce qu'il y avait à dire. Il y a eu la Shoah qui est passée par là, l'heure n'est plus à la discussion. Donc, la violence n'est pas une solution, je l'entends tout le temps, évidemment que c'est pas une solution, mais que la peur change de camp de temps en temps. Oui, je veux que la peur, elle change de camp, j'en ai absolument marre qu'on baisse la tête.
Il y a, Sœur Chalandon, des moments dans ce livre où le doute s'insinue, où peut-être vous dites, on n'en avait rien à fiche de Mao, on s'en fichait de Marx, au final on ne le lisait pas, et puis, mais bon, il y a quand même la construction de mouvements politiques qui s'établissent,
anti-autoritaires,
et qui sont au regard de cette jeunesse révoltée et anti-autoritaire. Il y a un passage à un moment donné qui dit, si on s'était planté, Pels, bah bon, mais qui nous, les maoïstes, si oui. On s'était trompés. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée, avec le livre de Kels, de regarder cet engagement, certes, avec la force qu'il avait, de rendre grâce à la lutte qui était menée, mais peut-être se rendre compte de certaines erreurs. Vous parlez de la violence, vous avez dit aussi combien c'était difficile pour vous, en écrivant, devoir avouer que violent vous l'avez été, vous aussi, certes, avec, on va dire, l'alibi de la lutte, mais violent quand même. Est-ce qu'il y a une forme d'examen de conscience dans ce livre de Kels pour vous, sous la forme romanesque?
Bien sûr, mais d'abord, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que tout le monde était violent. L'extrême droite était violente, la police était violente, l'époque était violente. C'est-à-dire que quand Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, dit « la prochaine fois, je demande à mes hommes de tirer dans le tas », entre guillemets, j'imagine pas aujourd'hui, quel que soit le ministre de l'Intérieur, qu'ils disent « on va tirer dans le tas ». Mais tout était violent, c'est-à-dire que la violence, je pense que si les ministres, messieurs Madelin, Longuet, Devedjian, qui étaient en face, entendent ça, ils savent que eux aussi, dans leur rang, c'était une façon de dire, de communiquer, de protester. L'erreur qui a été notre erreur, c'était une erreur grave, très, très dramatique, et qui a conduit d'ailleurs à la mort du mouvement, c'est qu'on pensait s'être inscrit dans la suite de la résistance française. Nous venions de la guerre n'était pas très très loin, on chantait qu'il fallait reprendre des armes que des traîtres nous avaient volées en 45, ce qui est très clair, et on partait au combat contre l'extrême droite en chantant le chant des partisans, « Ami, entends-tu le vol nord ?» C'est-à-dire que nous étions absolument tous persuadés que nous étions les enfants de Jean Moulin, de Guy Moquet, de Manouchian, de l'Affiche Rouge. C'était ça, notre combat. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que...
Pourquoi ?
Parce que c'était pas vrai. D'abord parce que c'était pas vrai, parce que contrairement à ce slogan, qui est quand même le slogan le plus con du monde, qui était inventé par l'extrême-gauche, les CRS ne sont pas des SS. On peut pas crier CRS-SS. C'est-à-dire que si on crie CRS-SS, on nie la totalité de ce qui s'est passé pendant la guerre. Si demain, après-demain, un jour, si une femme prend le pouvoir, si des ministres de l'Intérieur décident que les CRS vont mener une campagne systématique d'extermination d'une partie de la population, on pourra dire SS, parce que tout d'un coup, le rapport sera évident. Mais quoi que fasse un CRS, même s'il fracasse quelqu'un dans un commissariat, même s'il le tue, même s'il le torture, ce n'est pas un SS. Et moi, c'est extrêmement important, les mots, le
mais
pouvoir...
Mais donc l'erreur était quoi ? Était de s'emporter, de faire confusion historique,
mais tout,
d'être imprécis, de...
Oui, mais de se croire les héritiers de la résistance française. Et ce qui était le plus frappant, moi, c'est quelque chose qui m'a fait la chair de poule, littéralement. Il y a eu une énorme manifestation en 1971 contre le palais de justice, le palais des sports à Paris, où Ordre Nouveau faisait une réunion, donc l'ancêtre du Front National et l'ancêtre encore du Rassemblement faisait une grande réunion. Et nous, la gauche, a attaqué la réunion. Alors, attaquer la réunion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gauchistes, entre guillemets, sont 5 000 armés, que les autres en face, l'extrême droite française, ils sont 4-5 000 armés aussi, la police sont 4-5 000 aussi, et tout ça se bat dans deux rues à Paris. Mais les rues brûlent, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ça, ça a des images de guerre civile absolue. Et sauf que lorsqu'il y a la dispersion, et c'est ça qui m'a bouleversé, lorsqu'il y a la dispersion, on part, on court, on a lâché la barre de fer, l'ADN n'était pas encore présent à l'époque, c'était assez pratique. On fait quatre rues, et puis qu'est-ce qui se passe dans les quatre rues après? On revient en paix, c'est-à-dire que nous, c'était la guerre, et quatre minutes après, on se retrouve avec un homme qui est assis sur un banc avec une jeune fille qui lui dit qu'il l'aime. On se retrouve avec une maman qui achète un pain au chocolat à son fils. On se retrouve avec.
Et donc quoi? Ça veut dire que c'était très circonscrit.
C'était pas une vraie
guerre.
C'était pas une vraie guerre. C'était pas la guerre. C'était pas. Nos chefs avaient écrit un livre qui s'appelait Vers la guerre civile, qui était notre Bible, pas les livres rouges, celui-là. Vers la guerre civile, c'était pas que nous étions disposés à la guerre civile, mais que la guerre civile nous serait imposée, il faudrait y répondre. On s'est armé. On a été obligé de désarmer après. Mais donc, tout d'un coup, on se rend compte que non. Parce que lorsqu'on est 5000, d'accord, c'est un grand nombre, 5000. Mais il est où le peuple? Il est où le peuple? Ben, le peuple, il est en train de dire je t'aime, il est en train d'acheter un croissant à son enfant.
Et beaucoup de travailler et notamment aussi de vivre dans les bidonvilles. Je reviens à une scène d'enfance, Sœur Chalandon. Votre père revient, la gabardine couverte de sang, et il a frappé très violemment un homme arabe croisé dans la rue. La présence des bidonvilles revient à plusieurs reprises, notamment le bidonville de Nanterre dans votre livre, comme étant aussi un endroit de l'application de l'action sociale, de l'application de l'entraide, de l'application de la solidarité. Vous avez parlé des usines, évidemment, on le lit dans le livre de Kels, mais il se passe quelque chose, notamment avec les enfants, dans le rapport au devoir, au corps, au jeu, dans ces bidonvilles qui semblent être un terrain pour, on va dire, exprimer des idéaux politiques. On va entendre une archive, c'est un extrait de Là-bas si j'y suis. C'est une femme qui a grandi dans le bidonville de Nanterre qui témoigne.
Les beaux souvenirs, il y en a eu là?
Non, pas du tout, non, non. Oh là, c'est une grande misère. C'est plutôt... c'est du Zola, hein. Tu pleures à chaque histoire. Sauf qu'heureusement, je ne suis pas restée marquée par ces histoires. Ben, par exemple, maman, il a tuberculose dans ses bidonvilles. Alors, elle était enceinte de mon frère, elle a dû être hospitalisée. Mon frère, à sa naissance, il a été séparé de sa maman. Puis j'avais aussi mes frères et sœurs qui étaient séparés de nous. Donc c'était encore une deuxième coupure, tu vois, avec le pays, avec la famille. Tout ça à cause de la France, tu vois. Et les microbes et la saleté des bidonvilles. Il y avait la tuberculose. Et puis nous, on n'avait pas de famille ici, on n'avait pas nos tantes, nos grand-mères pour nous garder, donc on était isolés de tout. Et ce qu'on nous a fait, c'est qu'on nous a répartis dans les instances publiques, là. Et moi, je parlais pas encore bien le français, et puis je connaissais pas la culture française, rien du tout. Et on nous a mis chez des religieuses, donc la religion catholique. Alors on nous a encore coupés et mis dans une situation qui ne s'adaptait pas à ce qu'on nous a donné. Il fallait s'y faire. Ah non, 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 les religieuses nous ont fait une vie dure. Moi, mes parents, ils m'envoyaient des colis. Il fallait les partager avec tout le dortoir. On n'avait rien de personnel. On n'avait pas de vie personnelle. On était vraiment en communauté. C'était vraiment dur. C'était dur. Papa, il avait à voir maman d'un côté, mon autre soeur dans un autre sanatorium. Enfin, le pauvre, quand il me raconte ça aujourd'hui, oui, il avait aussi une vie pénible.
Dans les foyers, les bidonvilles, des enfants immigrés peinaient sur leurs devoirs. Leurs parents avaient du mal avec notre langue. Il faut y aller en tant que Mao ? Yanari, avec un badge chinois. Il enfilait son blouson. Non, comme ça, bénévole et anonyme, on la ramène pas. Mais à quoi ça sert si personne ne sait que c'est nous ? À ce que les enfants apprennent à écrire, m'a répondu Yann. Nadji ne savait pas tenir un crayon. Il l'avait coincé entre le pouce et l'annulaire de sa main droite, comme s'il cherchait à le faire tomber. Deux fois, Bilal lui avait montré la bonne position, mais son petit frère refusait de l'écouter. Même Lala sait s'en servir, s'était moqué le garçon. Leur sœur s'appliquait sans un mot sur un coin de planche transformé en table à tréteaux. C'était la troisième fois que je venais aider ses enfants. Réviser les leçons, surveiller les devoirs, lire une histoire, apprendre une chanson ou un poème. Ali, leur père, travaillait à la chaîne avec Marc. C'était lui qui m'avait présenté à la famille. Les gamins étaient scolarisés, mais leur père voulait profiter du jeudi pour faire en sorte qu'ils ne traînent pas dans le bidonville.
Ce bidonville, c'est un décor, une réalité qui revient à plusieurs reprises dans le livre de Kels, Sœur Chalandon. Il est aussi, il jouxte l'université de Nanterre, qui est un haut lieu aussi de ces combats politiques et de cette sociabilisation. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette importance-là, notamment dans le lien aux enfants, dans votre livre ?
Alors moi, j'ai un lien aux enfants particulier parce que enfant battu, je suis touché par la douleur des autres enfants. Donc moi, je parle. Et je vous avoue que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec un crayon de couleur qu'avec une barre de fer à la main. Donc, lorsqu'on m'a dit, c'est moi en plus qui ai demandé, mais vous me donnez tout, les militants, là. Vous m'avez donné un toit, vous m'avez donné des espoirs, vous m'avez donné de la culture, mais moi, qu'est-ce que je peux vous donner en échange? Et c'est là où Marc, qui s'appelait Jean-Marc, donc, ouvrier de chez Renault, m'a dit, bah, écoute, si tu veux, il y a des gamins qui peinent sur leurs devoirs, il y a des pères ouvriers qui ont du mal, il y a des mères qui sont malades ou qui sont encore enceintes. Ça ne paye pas de mine, c'est pas les grands lendemains qui chantent, c'est pas une forêt de drapeaux rouges avec une musique chinoise, mais ça peut être utile à ces gens-là. Et donc, si toi, tu as connu la tristesse, la rue, la solitude, si tu as connu les coups de ton père, je suis sûr que ça pourrait leur faire plaisir que tu leur racontes l'île au trésor.
Mais ça veut dire que cet engagement-là, aujourd'hui, et il y a de ça quelques dizaines d'années, Sœur Chalandon, ça faisait presque plus sens pour vous qu'être 15 000 à se battre entre policiers extrême droite et extrême gauche?
Ah non, pour moi, c'était la pareil. Même chose. Oui, pour moi, continue. C'est la même chose. C'est-à-dire que, je suis désolé, je vais être un peu brutal, mais c'était l'époque. Donc, on retourne dans l'époque. Donner un coup de barre de fer à quelqu'un qui hurlait « mort aux Juifs », pour moi, c'était aussi important que d'apprendre à écrire le français à un petit arabe, et le fait que je le fasse faisait de moi un traître au pays, vu par l'extrême droite. Pourquoi est-ce que j'aidais des petits arabes immigrés à aider à écrire, à lire, et puis quoi encore? À devenir français, c'est insupportable. Donc dans les deux cas, je faisais mal à cet ennemi.
Et vous, votre but, c'était de faire mal à cet ennemi?
Alors faire mal à cet ennemi parce qu'il me faisait mal, c'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression que notre violence soit une violence d'attaque. J'ai toujours eu l'impression que c'était une violence de défense. C'est-à-dire c'était répondre coup par coup. Il y avait une terrible, j'ai presque honte, mais c'est pas grave. On est sur France Culture, je peux y aller.
Je sais pas ce que vous sous-entendez avec ça, mais ça vous appartient.
Eh ben, je peux y aller, c'est-à-dire que ceux qui ont de la culture comprennent. Ce qu'on criait, c'était pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. C'était extrêmement clair, c'était extrêmement précis, c'était extrêmement violent, mais c'était ça, rendre au centuple le mal qui nous était fait et le mal qui était fait à ces gens-là. Je trouvais tellement dégueulasse que des immigrés, et il y en a eu plein, meurent avec des négriers qui les entassent dans des petites chambres où ils faisaient les 3-8 dans les lits, où celui qui rentrait de nuit se couchait dans le lit encore tiède de celui qui était parti travailler le jour, avec des chauffages défectueux qui tuaient ces gens-là. Et tout ça se passait en une sorte de bonne intelligence. On fermait les yeux, je ne voulais pas fermer les yeux. On ne voulait pas fermer les yeux. La moindre des choses qu'on pouvait faire, nous, on n'allait pas tuer un négrier. Mais en tout cas, ce qu'on pouvait faire, c'est que ces enfants-là, qui étaient des enfants de gens qui travaillaient, qui donnaient leur sang, leur vie, leur travail pour notre pays, la moindre des choses, c'est qu'on puisse les aider. Même si ce n'était pas brillantissime, c'était une petite chose qu'on pouvait faire, mais on la faisait avec bonheur.
Il y a dans le livre de Kels ce journal dont vous parliez tout à l'heure, La cause du peuple, et la manière dont, un jour, le cœur étoilé, on vous propose de revenir demain, et c'est à Libération. Mais on aura eu peu de temps, ou pas le temps, pour en parler. Le Book Club continue. À cette heure-ci, dans le Book Club, et on n'est pas loin finalement de ce qu'on vient de dire à l'instant, si quand même, on diffuse des événements, des manifestations, des festivals en lien avec le livre, l'écriture, la lecture. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un programme qui s'appelle Jeunes en librairie. Ça se passe en Bretagne. Les enseignants des collèges et des lycées de la région bretonne ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur candidature. C'est une manifestation en partenariat avec une librairie et ça se passe via la plateforme Adage. L'an dernier, ce sont 3720 élèves de 105 établissements établissements, dont deux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse de Bretagne, qui ont pu découvrir le monde du livre à travers ces rencontres avec des libraires. Il y a 60 libraires indépendants qui sont partenaires et avec d'autres professionnels du livre. Cette année encore, c'est un programme qui va permettre à plusieurs milliers d'élèves d'acquérir le ou les livres de leur choix. Il y a un petit montant de 20 euros chacun, mais c'est déjà pas mal dans le cadre de projets autour du livre et de la lecture construits par les enseignants et toujours en lien avec des libraires du territoire, mais aussi, je l'ai dit, d'autres professionnels du livre et des partenaires culturels. Livre et Lecture en Bretagne coordonne ce programme et participe à la mise en lien de ces différents acteurs. Tout sera mis en ligne sur la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et qui sait, peut-être que ces jeunes gens bretons auront écouté le Book Club et peut-être qu'ils iront en librairie et peut-être que... Combien il vaut votre livre ?
Il est trop cher.
Il est trop cher ?
23 euros.
23 euros.
Et je rentre de Suisse où c'était le double.
Bon !
Donc voilà.
À cette heure-ci, dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres. On propose à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous. Mais cette fois-ci, nous avons joué tout seul avec votre livre Sœur Chalandon. On a cherché de la musique. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait beaucoup de chants. Vous les avez cités. Et puis, il y avait ce passage. Bernard a mis le disque des Pink Floyd sur la platine, mais le cœur n'y était pas. Je ne l'avais encore jamais écouté. Je me suis assis par terre, dans un angle du mur, contre la porte ouverte des toilettes. Mousse a allumé un joint, sans un regard pour nous. Un autre fumait une sorte de calumet qui passait de main en main. Le papier peint à fleurs marron cloquait sur les murs. Une ampoule servait de plafonnier et la moquette bleue était usée jusqu'à la trame. La pièce sentait le sale, le pauvre, le triste. Des odeurs de linge mal lavé, de chien mouillé, d'urine. Je me suis demandé ce que je faisais là, avec ces inconnus. Je préférais encore un banc sur un square. Astronomie Domine flottait dans la pièce. Une musique spatiale, voix métallique, guitare douloureuse, batterie syncopée, état d'apesanteur. La pipe est passée devant moi, j'ai refusé. Je l'ai offerte à un autre. Avec le sourire de celui qui a trop abusé la veille. Sœur Chalandon, d'avoir été avec nous pour évoquer votre roman, le livre de Kels, paru aux éditions Grasset. Vous êtes sur les routes en ce moment pour discuter avec vos lectrices et vos lecteurs. Qui, quoi, en festival, vous arrivez de Morges et puis vous allez probablement aller à Nancy et passer par plein de librairies en France. Merci encore. Aujourd'hui, au son, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Vivien Demeyer. Merci aussi à Marianne Chassor, Cyril Marchand, Mathilde Wagman, Jeanne Léos, Garance Roubieux qui m'aide à penser, organiser et préparer ces émissions. Et puis vous pouvez poursuivre la conversation grâce à Alexandra Laibegovic qui anime notre compte Instagram du Book Club.